Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 44e numéro du coin lecture. Aujourd'hui, nous allons retrouver la plume de Séverine Mazière. Autrice périgordine de naissance et de cœur, Séverine Mazière écrit depuis l'enfance. Des histoires d'aujourd'hui, de personnes simples, souvent des femmes, qui pourraient être notre sœur, notre mère, notre cousine, comme elle se plaît à le dire. Après avoir publié plusieurs recueils de nouvelles, dont certaines ont été primées, elle s'est lancée dans l'écriture d'un premier roman, Épigone, thriller sorti en 2024, qui a connu un franc succès. Les chapitres que je vais vous lire aujourd'hui sont extraits de Rémanence, le deuxième roman de Séverine Mazière, dont l'encre est à peine sèche puisqu'il est paru le 18 juin 2026. On y retrouve entre autres Émile Briac, le protagoniste principal d'Épigone. Bonne écoute. Chapitre 1. Samedi 13 août 2022, 11h11. Le noir, compact, total. Silence oppressant. Marty tente d'inspirer. L'air a le goût de poussière et de moisi. L'humidité imprègne ses vêtements, sa peau. Ses mains tremblent contre le sol froid et granuleux. De la terre battue. Le dos contre la paroi, ses bras sont tirés vers l'arrière, attachés. Une corde rude, nouée solidement, relie ses poignets à un anneau scellé dans un mur, à 10 cm du sol. Impossible de se redresser. Chaque tentative de se hisser, de se dégager, réveille une douleur sourde dans ses épaules, dans ses reins. Il ne reste qu'une position, assise, jambes repliées, dos voûté. Moins pénible que les autres, mais à peine. Combien de temps s'est écoulé? Quelques heures? Un jour, plus, son ventre proteste, creux, grondant, sa bouche est sèche, sa langue râpeuse. La soif s'ajoute à la faim, sourde, harcelante, et ce froid, lent, implacable, qui engourdit ses extrémités, mord ses os, ralentit ses pensées. Pourtant, ça tourne dans sa tête, des images, des bribes. Les souvenirs reviennent. Devant sa porte, sa sacoche d'ordinateur au bras, la canicule, son pantalon qui collait à sa peau, sa clé, la serrure, ouvrir. Soudain, la sensation vive d'une piqûre. Marty a porté la main à son cou, a laissé échapper un cri, une fraction de seconde, son regard a cherché. Un homme, oui, sûrement, puis le vide, le noir, l'effondrement. Depuis, plus rien. Pas de lumière. Pas de repère, pas de temps, pas d'issue. La douleur dans le crâne est tenace. Migraine, coups, déshydratation, tout ça à la fois. Un bandeau enserre sa tête comme un étau. C'est sans doute pour ça aussi que tout est noir autour et que la céphalée s'obstine, lancinante. L'absence de bâillon sur sa bouche lui fait penser qu'il n'y en a pas besoin. Son agresseur doit savoir ce qu'il fait. Son esprit de déduction de journaliste lui souffle. Inutile de hurler. Ça doit être isolé, loin de tout. Personne ne t'entendra ici. Pas la peine de te fatiguer. Où suis-je? Qu'est-ce qu'on me veut? Pourquoi? Pas de réponse. Que le noir, le silence. Est-ce la nuit dehors, ou simplement l'absence totale de lumière, celle qui règne dans un sous-sol, une cave, un caveau, une tombe? L'angoisse monte, lente d'abord, rampante. Elle s'insinue dans la gorge, dans la poitrine, au fond des tripes, viscérale. Son souffle se bloque, son cœur cogne, plus vite, plus fort. Une chaleur soudaine grimpe sous sa peau, l'étouffe, serre sa trachée. L'air lui manque. Pas à cause d'une insuffisance d'oxygène, pas encore. Une image s'impose, celle d'être là pour toujours, dans le noir, et bientôt la mort. Non,
Impossible. Faut que je bouge. La panique est un feu. Elle brûle sa léthargie, arrache son esprit au brouillard. Tout son corps se tend. Ses poignets tirent sur la corde. Sa peau râpe, irrite. Peu importe, il faut lutter. Un mouvement brusque. La corde résiste. Mort, c'est cher. Ses épaules protestent. Sa tête cogne le mur. Mais ce n'est rien. Ce n'est pas la mort. Pas encore. Alors vient l'acharnement. Son torse se tord. Il faut trouver un angle, une faiblesse. Ses pieds poussent, glissent, retombent. Recommence. Encore. Et encore. Le souffle court, les poignets lacérés, le cœur battant à tout rompre. Dans l'obscurité, il n'y a que ce bruit à présent, celui de la lutte, du frottement des cordes, des halètements, du choc sourd des talons contre la terre battue. Et cette voix intérieure, muette mais obsédante. Pas ici, pas comme ça, pas maintenant. Il faut que je sorte. Puis soudain, autre chose. Un son étouffé, lointain. Un frémissement. Son corps se fige. Quelque chose bouge au-dessus. Des pas. Un raclement. Impossible à dire. Le bruit est sourd, diffus comme filtré. Le sol là-haut semble porter un poids. Le souffle se suspend. Les yeux se ferment pour mieux entendre, bien qu'il n'y ait rien à voir. Le bruit s'éloigne. Revient. Indistinct. Animal ? Humain ? L'esprit affolé imagine une forêt, des racines, des bêtes qui grattent. Ou quelqu'un, le ravisseur. Un passant, du secours. Puis, plus rien. Le silence retombe, plus lourd encore. Marty panique, et sans réfléchir, pousse un hurlement qui lui déchire la gorge. À l'aide !
Chapitre 2. Vendredi 12 août 2022, 14h58. Émile éteignit son moteur devant le garage de la maison de Marty, au 84 rue des Prés, juste au bord de la voie verte et de l'île. En sortant de son véhicule, le souffle lui manqua. Une sensation étouffante comme quand on ouvre la porte d'un four. L'air était lourd, saturé de chaleur et de l'odeur de la renouée qui envahissait le poteau électrique de l'autre côté de la ruelle. Il vérifia l'adresse une nouvelle fois. C'était bien ici. Depuis 3 mois qu'ils travaillaient ensemble sur le projet de Marty, ils se retrouvaient plutôt chez lui ou dans une petite salle du journal. Cette fois, le message avait été insistant. « C'est urgent, j'ai une nouvelle piste pour mon livre », disait le texto reçu la veille, à midi pile. Le rendez-vous avait été fixé au lendemain, à 15h. Émile n'avait pas posé de questions. Avec Marty, il savait que si c'était urgent, alors c'était aussi important. Tout son planning passait dans la matrice d'Eisenhower. Pas de place pour le futile. Il fallait accomplir ou éliminer. Si l'on pouvait planifier ou déléguer des tâches, cela voulait dire que c'était des besognes sans réel intérêt. Émile ouvrit le portillon et s'avança jusqu'à l'entrée sur l'allée gravillonnée. De part et d'autre, des herbes folles, grillées par le soleil, envahissaient le jardinet. Des roses trémières tentaient de résister, dressant leurs tiges fragiles, du rose pâle au fuchsia éclatant. L'image lui rappela un souvenir plus tendre. Saint-Clément-des-Baleines, l'été précédent, les façades blanches, les volets verts, les rues bordées de ses fleurs. Ses vacances avec Cécile, calme, rare, arraché à une vie longtemps rythmée par les urgences du commissariat. La douce sensation s'effaça aussitôt. La porte d'entrée était entrouverte. Émile s'arrêta net. Une crispation familière remonta le long de sa nuque. Un réflexe ancien, impossible à désapprendre, même après 5 ans et demi de retraite. Il fronça les sourcils. Peut-être était-il attendu. Il frappa, par habitude. puis martela un peu plus fort.
« Marty !»
appela-t-il. Aucune réponse. Il passa la tête dans l'entrebâillement.
« Marty, tu es là ?»
Rien. Il poussa la porte pour entrer tout de go. Il ôta ses lunettes de soleil, qu'il plia et glissa dans l'encolure de sa chemisette. Et resta bouche bée. La pièce principale ressemblait à un véritable chaos. Des dossiers gisaient au sol, d'autres s'entassaient sur une table trop petite pour contenir tout ce désordre. Des papiers étaient éparpillés jusque sur le bar qui séparait le salon de la cuisine. Sur une autre table, plus discrète, peut-être un bureau, des carnets ouverts, des stylos, des surligneurs, des journaux, des chemises colorées plus ou moins épaisses. Émile resta figé. Il observa la scène en silence. Il n'avait jamais mis un pied ici et il ne s'attendait pas à ça. Il avait imaginé Marty comme quelqu'un de méthodique, presque maniaque. C'est l'image qu'on se fait des journalistes d'investigation, non ? Deux chats noirs surgirent soudain d'un coin de la pièce et vinrent se frotter sur ses jambes en miaulant.
« Ben ? Affleck ? »
souffla-t-il, se souvenant des noms des deux bombets. Des ronronnements satisfaits lui firent sentir qu'il ne s'était pas trompé. Marty lui avait souvent parlé de ses chats, ses enfants. Une pensée s'imposa alors dans son esprit. « On ne laisse pas la porte ouverte avec ses enfants seuls à l'intérieur, si ?» Un frisson parcourut son échine.
« Marty »
appela-t-il plus fort cette fois.
« C'est Émile !»
Pas de réponse. Il s'avança vers le couloir qui menait au fond de la maison. Une porte ouverte sur une salle de bain, une autre sur une chambre. Pas un bruit. Il repéra l'escalier qui montait à l'étage et se pencha pour héler une nouvelle fois.
« Y a quelqu'un ?»
Toujours rien. Il posa un pied sur la première marche, hésitant. Puis il cramponna la rampe et monta deux à deux. Trois portes sur le palier, deux ouvertes, une fermée. Il tenta encore.
« Marty, c'est Émile !»
La première pièce, étriquée, servait de buanderie. Machine à laver raccordée dans un coin, tablette au-dessus où s'alignaient des barils et flacons de produits, linge sur une table à repasser, lessive étendue sur un tankerville, portant encombré de vestes et manteaux inutiles pour la saison. Quatre étagères encastrées dans un mur, cachées à demi par un grand rideau de lin beige, laissaient entrevoir des piles de vêtements. Pas de Marty. La pièce en face, en revanche, cloua Émile sur place. Du sol au plafond, des rayonnages couverts de livres de toute taille, de toute couleur, allant du format de poche classique, il aperçut Voltaire, Maupassant et Zola, aux livres d'art et de photos. L'imposant ouvrage du photojournaliste franco-brésilien Sébastien Salgado, Genesis, reposait sur le dessus. Près de la fenêtre, une bergère au velours vert olive élimé, une grande lampe sur pied en laiton, avec un éclairage plus bas pour la lecture. Sur le fauteuil, un livre, 1991 de Franck Tillez, d'où dépassait un marque-page dédicacé. Quelle surprise ! Il l'avait dévoré en trois jours à Noël, mais il n'aurait jamais pensé trouver ce genre de littérature chez Marty. Pour lui, les journalistes ne s'intéressaient qu'aux documentaires et aux rapports d'analyse sur la société, pas à la fiction. Émile ne s'attarda pas plus et se dirigea vers la dernière porte, fermée. Il tenta un énième «
Marty !»
et tourna la poignée. Des toilettes, immenses, avec des rayonnages de lecture ici aussi. Il ne put s'empêcher de sourire en imaginant Marty en position, un Franck Tillez à la main. Il ferma les yeux pour chasser cette image de son esprit et tira la porte. Émile redescendit l'escalier aussi vite qu'il l'avait monté et revint dans le salon qu'il scruta une nouvelle fois du regard. Un détail attira soudain son attention. Sur le bureau, au milieu du désordre, un enregistreur. Il le reconnut aussitôt. C'était celui utilisé pour leurs entretiens, pour son enquête, pour son roman. Pourquoi est-il là s'il n'y a personne ? C'est pas logique. Marty aurait jamais laissé traîner son dictaphone, jamais. En tout cas, Émile avait toujours vu l'objet en sa possession à chacune de ses visites. C'est le matériel indispensable pour les bons journalistes, les vrais. Ce n'était pas lui qui avait inventé ça.
quelque chose clochait. Il tendit la main, attrapa l'appareil, le retourna. Il appuya sur le bouton, l'écran s'alluma. Il fonctionnait. Il sélectionna « Menu » et lança la lecture du premier fichier. Chapitre 3. Dimanche 22 mai 2022, 14h27. Enregistrement 1, Émile Briac. Je pose l'enregistreur ici et je vous écoute.
Ok. Bon déjà, je vais te tutoyer si ça t'ennuie pas.
Pas de problème, si c'est ce qui vous convient.
Je pourrais être ton père. Tu peux me tutoyer toi aussi si tu veux.
Vous me pardonnerez, je ne suis pas très à l'aise avec l'exercice, mais ça viendra peut-être, j'essaierai.
Comme tu veux. Alors, j'ai passé le concours de flic en 1974. J'ai été muté en Dordogne. J'avais 21 ans en 1976. Voilà. Tu voulais que je te raconte quoi ?
J'ai envie de connaître un peu plus l'homme qui a croisé la route de ma mère quand elle était petite. Pas de stress, je ne publierai rien que vous n'ayez relu et validé. Je vous l'ai dit et je vous le répète au cas où. Tout ce qui se dit ici reste entre nous. Je ne suis pas journaliste aujourd'hui, je suis juste Marty. On pourrait commencer par le début, si ça peut vous aider à retrouver vos souvenirs, pour restituer le contexte. Comment vous vous appelez, quand et où vous êtes né, où vous avez vécu, comment vous êtes devenu policier, est-ce que vous aviez des policiers dans votre entourage, ce genre de truc, pour savoir un peu qui vous êtes. Je ne l'utiliserai pas dans mon livre, c'est juste pour comprendre comment et pourquoi vous avez aidé ma mère et sa sœur.
Ouais. Je vois pas ce que ça va t'apporter, mais si tu veux. Bon, selon l'état civil, je m'appelle Émile Henri Briac. Je suis né le dimanche 11 décembre 1955 à Aigurande, en Corrèze. Je suis le troisième fils de Marguerite Briac, née Magoubert. Je crois qu'elle a aussi eu une fille avant moi, mais on parlait pas de ces choses-là. Son mari, Henri Briac, est mort sur le chantier du barrage de Bord-les-Orgues en 1949 ou 1950, je ne sais plus. Ils habitaient Port-Dieu, un village qui a été englouti en 1951 quand le barrage a été mis en eau. Son mari a été exhumé et réenterré à Confolens-Port-Dieu, dans le nouveau cimetière. Maman a alors été relogée avec ses deux premiers enfants dans une maison à Merline. Mon père était un vieux garçon, garde-barrière à Aigurande. Il s'appelait Alain-Émile Chassagne. Ma mère a repris son poste au passage à niveau en 1957 quand il est mort. Il s'est endormi après son café du midi sur le coin de la table et il ne s'est jamais réveillé. Il avait 55 ans. Maman en avait 44 et moi 2. Mes frères Jean et Clément avaient déjà 18 et 20 ans. Je ne les ai pas beaucoup fréquentés, je ne me souviens pas trop d'eux. Je les ai revus pour l'enterrement de maman, en 1987, à Aigurande. Et c'est tout. Tu vois, pas de flic dans mon entourage. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ?
Tout ce que vous avez envie de me dire. Pour moi, les liens familiaux, c'est un peu un trou noir. Mon père est parti depuis longtemps. Je n'ai pas grandi avec des grands-parents, il ne me restait que ma mère. Alors je m'intéresse aux gens. Pas aux dates, pas aux lignes bien rangées. Je ne cherche pas une fiche Wikipédia bien propre. Je cherche ce qu'il y a derrière. Ce qui ne s'écrit pas toujours. Et que je n'écrirai pas, je vous le redis encore. Bref, parlez-moi de l'école, des gens que vous fréquentiez, de ce qui comptait pour vous.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Rien d'extraordinaire. Comme tous les gamins du coin, à 5 ans, je suis allé à la communale de la gare, à Merline. C'était en janvier 1961. J'aimais pas l'école. On était mélangés avec des plus vieux dans deux classes. J'étais le plus jeune et en plus, j'étais pas bien grand, plutôt rachitique. On mangeait pas trop à notre faim à la maison, même si on se débrouillait. Le premier jour, à la rentrée, j'ai vu un élève, un des plus vieux, se faire taper sur les doigts par l'instit avec une grande règle en fer parce qu'il savait pas lire les mots écrits au tableau. Ça m'a pas vraiment donné confiance. J'ai pensé que si c'était ça l'école, je préférerais rester travailler avec ma mère chez nous. C'est en tout cas ce que je lui ai dit le soir en rentrant. J'ai pleuré. Je voulais plus y aller. Elle m'a consolé et m'a expliqué que c'était crucial de bien apprendre, qu'elle n'avait pas pu continuer, elle, et que maintenant, elle avait besoin de moi pour écrire ses courriers et faire ses comptes.
Elle en avait assez d'être aidée par les voisins pour comprendre les papiers importants. Elle avait honte de demander à la préposée de la poste de vérifier une adresse. Alors, j'ai fait de mon mieux pour elle. Je voulais lui faire plaisir. Elle travaillait dur. Elle avait la charge de la barrière. Elle faisait également du repassage. Je voyais des dames bien habillées qui venaient chez elle le samedi et qui lui portaient de grandes bassines de linge que ma mère défroissait jusqu'au dimanche soir. Il y avait de la vapeur et l'odeur de la lessive partout dans la cuisine pendant 2 jours. Elle s'occupait aussi de son jardin, son potager. Moi, je l'aidais à ramasser les planches de patates. Je triais les petites pour le cochon du voisin. On avait des lapins. Je me souviens du clapier au bord de la voie ferrée, au fond du verger. Nos voisins avaient des poules. Je me rappelle que maman me donnait les petites patates ou un lapin parfois, et je les portais chez eux. Je revenais avec une corbeille d'œufs ou un poulet en échange. Voilà comment on vivait.
Vous venez d'entendre les 3 premiers chapitres de Rémanence, le nouveau thriller de Séverine Mazière aux éditions Alter Réal. Vous pouvez vous procurer Rémanence ainsi qu'Épigone, le premier roman de cette autrice, dans toutes les librairies physiques et en ligne. Ces recueils de nouvelles entre gris clair et gris foncé et 100 000 broutilles sont quant à eux disponibles sur Amazon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.